Donc aujourd'hui, on voulait parler en plus de la valeur du travail non pas de la valeur du travail qui était un peu le propos des deux derniers cours, à savoir dans l'histoire, dans l'anthropologie, l'importance que nous donnons, nous, ce que nous appelons le travail, parce que ça a toujours été le cas de la manière dont nous donnons de l'importance aujourd'hui au travail, comment les choses ont pu évoluer éventuellement, ou d'une culture à l'autre, on a vu ça avec l'anthropologie. Est-ce que c'est pas plus relatif qu'on le croit, mais sinon on ressent comme quelque chose d'absolu. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi aujourd'hui dans la société, il est très difficile pour lui de pouvoir vivre par la norme, par la norme. Donc c'était plutôt l'objet de la discussion, mais on avait terminé le cours d'anthropologie, donc c'est le dernier cours, pour dire que, au fond, il y a une variable qui apparaît, c'est que selon si on prend le point de vue ethnocentrique ou non ethnocentrique, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a une discussion qui se met en place, et c'est ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, avec toute cette discussion-là, entre le fait que le travail vient produit bien quelque chose, et sur le plan anthropologique, apparemment, ce dont on parle, c'est surtout la valeur, ce qu'on appelle la valeur économique du travail, c'est-à-dire le travail comme source de valeur économique, à savoir, évidemment, le fait que par le travail, on produit des marchandises qui peuvent s'échanger, qui peuvent permettre aux êtres humains de survivre, de mieux vivre, etc. De la valeur morale, en fait. Le travail peut être source de valeur morale. Mais là, ça va assez plus du point de vue anthropologique, mais cette fois-ci ethnocentrique, donc de l'autre, en quelque sorte, à savoir, oui, sur le plan moral, il se peut que le travail soit source de valeur parce que, par exemple, si on aura quelqu'un, on aura l'impression que quelqu'un qui n'a pas d'emploi, eh bien, il reste chez lui, il n'a pas la même perception du monde, il est peut-être un peu paresseux, c'est tout ce discours qu'on trouve très souvent dans les médias. Savoir est-ce que le chômage, par exemple, va apparaître pas seulement le problème du chômage au sens économique, mais aussi du chômeur au sens en tant que personne, souvent il dit que, est-ce que le chômeur, quelque part, ne serait pas responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Et là, il s'enclenche une discussion plus morale qu'économique, où on va mettre en avant le fait que par le travail, par le fait d'avoir un emploi, eh bien, ça peut nous permettre d'être avec les autres, de faire quelque chose de notre vie, de donner un sens à notre vie, et que c'est très difficile, on voit bien, les chômeurs le disent de toute façon, d'abord, évidemment, lorsque vous vous trouvez du jour au lendemain sans emploi, eh bien, il y a une sorte de vide, et j'ai l'impression que c'est plus, ça va plus être plus difficile ou différent pour vous pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un emploi du temps, un rythme de vie, aussi au fond le travail était aussi source de valeur, mais cette fois-ci sur le plan moral, et pas simplement source de valeur économique, c'est-à-dire production de marchandises par le travail, etc. Donc c'est un peu cette discussion qu'on aimerait avoir avec vous avant de passer à autre chose, parce que cette fois-ci, évidemment, c'est plus la valeur, même si c'est lié, c'est plus la valeur, valeur au sens d'importance, l'importance que l'on donne ou non à ce qu'on appelle le travail dans nos sociétés, que le fait que le travail en lui-même est lui-même producteur de valeur, lui-même est source de valeur. Donc c'est quoi le travail source de valeur? De quelle valeur parle-t-on? Et il n'y a-t-il pas un problème à ce niveau-là? On avait indiqué quand même sur la fin qu'apparemment il y a un problème, et c'est ce problème-là qu'on va traiter aujourd'hui, puisque apparemment tout se passe, ça va être l'idée générale de ce cours, voilà, vous la donne tout de suite, comme ça vous pouvez réfléchir, on va débattre, maintenant on va démontrer un petit peu les choses quand même, tout se passe comme si il y a eu une sorte de comme si l'un camouflait l'autre, au bout du compte, en faisant du travail quelque chose comme source de valeur morale, ben, ça a masqué le travail comme source de valeur économique, et que quelque part, le débat est forcément faussé, c'est que quelque part, ben, du coup, on aborde la question du travail, mais sous un angle qui n'est pas vraiment à l'origine même du travail, sur le plan économique. Voilà, donc c'est un peu l'idée de ce tour, cette problématique-là. C'est pour ça d'ailleurs que le document que vous avez distribué, c'est par bien du travail sur de valeur, et que tout de suite il y a deux choses qui se séparent. Soit, est-ce qu'on entend par là, sur de valeur au sens des économistes depuis le 18e siècle, Adam Smith, Ricardo, valeur au sens de richesse, c'est-à-dire production de richesse, de marchandises, d'échanges. Une société qui fait du travail un de ses piquets, ses points centrales, parce qu'en fin de compte, une société qui compte non seulement autour de la marchandise, mais de la richesse même monétaire, tout simplement, et que pour qu'il y ait de la richesse monétaire, il faut bien qu'il y ait des échanges de marchandises, et que c'est, on ne voit pas par quoi d'autre que le travail, cela serait possible. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Alors, cet aspect-là, tout de suite, c'est la gauche et la droite de votre schéma. Donc, la gauche aujourd'hui, ce sera Bernard. Bernard qui va tenir le plan gauche, on dira le problème. Et puis moi, je vais m'atteler au plan droite. L'UMP et PS, là, comme vous. Donc, on verra si ça ne va pas. Le plan droit. Plutôt que vous parlez de ça, donc si vous êtes obligé de parler un peu de ce dont on va parler Bernard, et évidemment, moi je vais en parler d'une façon, je pense que Bernard risque d'en parler autrement. C'est un autre point de vue. Et d'ailleurs, ce dont je vais vous parler, j'ai bien fait que Bernard vous parle de ça aussi autrement, autrement que j'ai dit. Donc c'est un peu le but, c'est de quand même de faire réfléchir sur ce. Ça veut dire quoi le travail source de valeur, et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de valeur hein. C'est un peu le but du cours, et on aura le temps d'ailleurs, c'est prévu, évidemment, à la fin de notre exposé, de nos deux exposés, on prendra le temps de débattre avec vous et de voir éventuellement votre position. Très bien. Donc du coup, on a séparé pour simplifier, parce que c'est jamais aussi manichéen, évidemment, dans la réalité concrète de tous les jours, mais pour pouvoir analyser la chose, avec Bernard, on s'est dit. Ça a eu quand même un intérêt de séparer ce qu'on appelle la valeur économique proprement dite, qui relève de toute une problématique sur laquelle moi je n'interviendrai pas parce que c'est plutôt le propos de Bernard, mais qui est quand même très particulière, qui est celle des économistes qui interviennent par exemple dans les médias et qui souvent on ne comprend pas trop ce qu'ils racontent parce qu'ils utilisent des termes savants, scientifiques. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle l'économie au fond. Donc c'est pas une source de valeur économique qui est liée à la production de richesses, évidemment. À l'échange, et là, Bernard va développer cet aspect-là, c'est savoir, ça veut dire que les marchandises ils ont eux-mêmes deux valeurs. À l'intérieur de ça, il y a encore un problème, parce qu'il y a deux valeurs. Les marchandises, ben, il y a ce à quoi elles servent, donc la valeur d'usage, une chaussure, ben, ça sert à marcher, très bien, mais une paire de chaussures, ça a un prix, et le prix, ben, prix qui est alors d'échange, c'est-à-dire que tu peux échanger une paire de chaussures pour autre chose qui a le même prix, mais qui n'a pas le même usage, et là, il y a toute une problématique qui se met en place. Parce que si vous achetez des chaussures pour les revendre, ce n'est pas la même chose que si vous achetez des chaussures pour les mettre au frigo. Le but n'est pas le but. Là, il y a une sorte d'inversion, Bernard en parlera, ce n'est pas mon propos. Mais on voit bien que là, on a affaire à tout un vocabulaire, à toute une problématique, quand même très particulière, qui est ce qu'on appelle l'économie, aujourd'hui évidemment, très particulière, et qui n'est pas forcément ce que nous on entend par valeur dans la vie de tous les jours. Nous, ce qu'on entend par valeur dans la vie de tous les jours, c'est plutôt un sens moral, ce qui aurait été la personne, de l'humain. Et c'est vrai que j'ai écouté les économistes dans les médias, par exemple, ça n'a pas sa place, ça n'a pas vraiment sa place. Alors de temps en temps, ils en parlent, ah oui, j'ai oublié, il faut être humain, donc évidemment, il faut faire attention, mais. On sent que ça ne fait pas partie du discours lui-même. Hein, c'est très difficile, problématique. Alors, du coup, bah, allons voir, c'est quoi la valeur morale? Si le travail est source de valeur morale, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire une valeur morale, par opposition à une valeur économique, simplement quantitative? On a l'impression qu'on passe du quantitatif au qualitatif, en quelque sorte. Hein. Et que pour nous, d'ailleurs, je le souligne tout de suite parce que c'est important pour la suite, pour nous, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, dans notre rapport conscient que nous avons, et on va voir que c'est important sur ce biais-là, le rapport conscient que nous avons à ce que nous appelons le travail, évidemment que la partie valeur morale nous paraît beaucoup plus essentielle que la partie économique. D'ailleurs, on est économiste, on a du mal à suivre, pas seulement parce que c'est compliqué, mais aussi parce que c'est très ennuyeux. On n'a pas l'impression de s'y retrouver, on n'a pas l'impression que c'est de cela dont on parle, nous, lorsqu'on parle de valeur. Donc là, il y a un décalage, c'est que ce qui me paraît le plus important, c'est quand même l'aspect moral, hein, pour nous, dans la vie tous les jours. Et que c'est important quand Dieu a ses enfants ou ses petits-enfants, quand dit c'est important que tu travailles bien à l'école, que tu aies un travail demain, etc. Évidemment, on ne pense pas à la plus-value, on ne pense pas à la marchandise, à l'usage, on pense au côté humain. Si tu veux t'épanouir demain, pouvoir avoir une famille, épanouir, etc., bah, déjà un emploi, puis un bon emploi, pas n'importe lequel, fais attention, après l'archive, l'intellectuel, le manuel, enfin, beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, on sent bien que là, on a affaire à une valeur qui n'est pas quantitative, qui n'est pas quantifiable, bon, hein, qui est un point de vue subjectif que l'on porte sur la question. C'est pour ça que la valeur morale, en fin de compte, quels que soient les discours, parce qu'il y a beaucoup de discours sur ces questions-là, on vous a proposé, mais je ne vais pas parler des textes, excusez-moi, le texte de Marx qu'on vous propose, évidemment, porte plutôt sur la question économique. Hein. La valeur économique, avec Marx, Bernard en parlera, avec cette idée que, oui, quand on creuse vraiment, on s'aperçoit qu'au bout du bout, mais ça, je ne vais pas m'interroger là-dessus, c'est Bernard qui le fera, au bout du bout, non seulement on échange les marchandises, mais nous-mêmes, nous échangeons que. Alors, pas nous-mêmes. Déjà, là, c'est qui ça, c'est un peu trop grand, tout ça, tout le monde. Mais ce qu'on appelle la force de travail, qui elle-même, qui fait partie de nous, un peu tout, notre force de travail, est elle-même une marchandise, en fin de compte, dans un système économique. Hein. Nous marchandisons notre force de travail. C'est ça, l'emploi.
D'ailleurs, on dit le coût du travail.
Le coût, exactement. Alors, ça, nous reviendra, c'est très intéressant, c'est choquant, même, parce que. Le coût du travail, ça veut dire quoi? Normalement, c'est des charges sociales, ce qu'on voudra, mais le coût du travail, oui, le problème, c'est que c'est une force de travail, c'est quelqu'un, c'est pas non plus une marchandise en tant que tel. Voilà, ça c'est le texte de Marx. Et puis le texte de Nietzsche, parce qu'on cherchait un texte qui renvoyait plutôt à la question morale, qu'on a trouvé intéressant parce que on peut le mettre en miroir avec le texte de Marx. D'une part, il porte bien sur la question de la valeur morale. Et que c'est vrai que du coup, bien, il y a à l'intérieur, alors c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on peut dire sur la valeur morale, à savoir le fait qu'il y a une glorification, en fait, ce que Nietzsche appelle une glorification du travail, le fait que le travail serait bénéfique. Et tout comme je vous disais que je prenais tout à l'heure, je m'avance, on dirait tout à l'heure dans le débat, mais a priori, on ne dira pas à un de ses enfants, tu sais, moi, il ne faut pas aller travailler, c'est pas bien. Tu vas rater ta vie, bon, il faut ne pas travailler pour réussir sa vie. Évidemment, personne ne tient ce discours à ses enfants, notamment par rapport à lui-même, c'est autre chose qui est important à ses enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de glorification du travail qui se met en place. Et simplement, alors, ce qui est intéressant chez Nietzsche, c'est que c'est presque un complément, enfin, il y a un lien quand même avec ce que dit Marx, c'est-à-dire que cette glorification va se traduire au bout du compte par une. Sécurisation, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ça peut être une façon, comme les individus sont pris psychologiquement, on attend, il faut du travail pour être bien, etc. Ça peut être une façon de tenir les individus. Parce que tout le temps où ils travaillent, et tout ce qu'ils font pour pouvoir travailler, ils ne passent pas à réfléchir, à s'épanouir, à critiquer, etc. Ça peut être une façon pour l'État de tenir les individus. D'ailleurs, les États totalitaires, c'est les États où on dit travail. Ces États très. Qui mettent beaucoup d'accent là-dessus. Hein. Alors, non, on n'est pas dans un État totalitaire, mais ce n'est pas absent non plus. Cette façon de glorifier le travail, en fin de compte, de leur en faire une chose aussi essentielle et importante, ça peut être une façon de tenir. Voilà, c'est pour ça que nous, si on veut l'amener, parce que il nous semblait intéressant pour prolonger un peu. Le rapport entre valeur morale et valeur économique. Alors, par rapport au schéma, revenons au schéma sur valeur morale et valeur économique, oui, alors sur la valeur morale, avant de parler de morale, d'abord, ce qu'on peut souligner, c'est quelle que soit la valeur morale dont on parle, le fait que ce soit, ça rend l'individu social, que ça lui permette de s'intégrer, que si je ne tiens pas d'emploi, par exemple, ben, il voit moins de monde. Discute moins avec les autres, il est moins avec les autres, il se sent moins avec les autres. Parler avec eux, alors parler j'allais dire les retraités, les chômeurs aussi, mais les retraités aussi, il doit avoir comme ça enfin, quelqu'un qui quitte un emploi à la retraite, souvent moi je ne parlais pas ça, je me souviens des parents par exemple, le moment où ils sont passés de l'emploi, bon, on se retrouve ensemble à la maison, on ne voit plus les autres, on voit, il y a des personnes qu'on ne voit plus, des gens qu'on ne voit plus, et là il se passe une sorte de perte qui se met en place, comme si au fond l'emploi, le travail était une forme d'intégration sociale. Donc une condition de l'intégration sociale. Donc ça c'est important, mais et d'un autre côté, évidemment, l'expression de soi, alors cela est très variable selon les emplois, on est d'accord, mais même dans l'emploi qui nous paraît le moins gratifiant, on va dire, il y a toujours cette expression de soi. Si je prends le cas vraiment, voilà, quelqu'un qui est employé au ménage, voilà, toute sa vie, ben, il peut avoir à la fin de sa carrière une façon de faire le ménage qui est personnel, il a des choses à apprendre aux petits jeunes qui arrivent pour faire le ménage, donc voilà, il y a quand même, on va toujours trouver cette expression de soi. Même dans ce qui nous paraît un peu surprenant, parce que, évidemment, l'expression de soi, lorsque vous êtes écrivain, vous êtes légitime, ça paraît plus clair. Mais même dans les travaux les plus manuels, comme on dit, en fin de compte, on la trouve, cette expression de soi. Les gens qui font le ménage, ça va toujours frapper, les gens, comme on dit, les anciens, qui sont pas loin de la retraite, ils ont toujours des façons de faire qui viennent d'eux, dans leur façon de faire, qui viennent d'eux, et ils ont des choses à apprendre aux autres. Donc ça, c'est apparemment une dimension importante, mais voilà, que ce soit l'intégration sociale ou l'expression de soi, dans les deux cas, c'est le ressenti. C'est-à-dire que ceux qui ont fait une valeur morale, c'est qu'au bout du compte, on parle de ce qu'on ressent par rapport au travail. Donc, ce n'est pas l'étude objective, mécanique, entre guillemets, Bernard, tout à l'heure, on voit les termes différents propres, là, pour l'instant, on ne fait qu'introduire, mais scientifique, si vous voulez, entre guillemets, du travail. Là, c'est plutôt, j'étudie ce que j'appelle le travail par rapport à ce que je ressens par rapport au travail, hein, comme expression de soi ou intégration sociale. Alors, si on part de ce ressenti, dit que nous, on a appelé psychologique parce qu'il fallait bien lui donner un nom, alors là, on va aborder un problème qui est intéressant parce qu'on l'a entrevu dans le dernier cours, il y a eu une discussion avec Bernard et la salle à un moment donné sur ce problème-là, et on est au cœur du problème. C'est-à-dire que peut-être que dans le ressenti, il y a un intérêt à distinguer le ressenti conscient du ressenti inconscient. Et là va apparaître quelque chose sur la question de la valeur, hein, qui n'est pas inintéressant. Le ressenti conscient, alors ce que nous appelons, c'était un peu le débat qu'on avait eu la dernière fois sur la fin, savoir s'il y a peut-être quelque chose d'inconscient dont on ne parle pas, et qui peut être très déterminant, plus qu'on ne le croit, en fin de compte. Parce que nous, on a une tendance à parler, parce que vous êtes intervenu par exemple la dernière fois, mais nous-mêmes, une tendance à parler de ces choses, de la conscience qu'on en a. Le problème, c'est qu'on ne voit pas que. En faisant comme si la conscience qu'on en a était le point de départ, que pour en parler, yeah, comme la conscience qu'on en a, il faut peut-être déjà avoir des préjugés qui, eux, sont inconscients. C'est-à-dire qu'on ne part jamais de nulle part pour parler des choses. Donc il y a une partie inconsciente, en fait, dans la façon, même dans le ressenti, la façon dont on ressent ce qu'on appelle le travail. Alors, sur la partie consciente, évidemment, on va apparaître tout ce qu'on a dit là, les façons de faire, les façons de faire, mais ça se traduit au bout du compte par ce que nous appelons une compensation avec Bernard, à savoir le fait que dans la partie consciente, tout ce qu'on va amener va être tout ce qu'on va utiliser comme argument pour parler du travail, en fin de compte, ou pour valoriser le travail. Et donc, ressentir le travail comme source de valeur, et pas simplement donner de l'importance, mais c'est parce que le travail est source de valeur que je lui donne cette importance, valeur morale, etc., humaine, on va dire, et c'est parce qu'au niveau conscient, oui, l'expression de soi et l'intégration sociale jouent le rôle de compensation de ce que pourrait être le travail comme aliénant, exploitation, etc. C'est-à-dire que si on arrive à se lever tous les matins pour faire ce qu'on a à faire parce qu'on a un travail, un emploi, c'est qu'en fin de compte, le fait qu'en allant là-bas, même si j'ai pas envie, même si je sens bien que Bon, je vais préférer y aller demain. Mais j'ai pas le choix. Ça, le fait d'être forcé à quelque chose, une annulation. Donc, bien en fin de compte, le fait que, d'accord, mais je vais y aller quand même. Et puis je vais trouver mon compte, présent moi-même. Je vais voir des gens qui ont, je vais de revoir un tel, parler avec lui. Ça joue le rôle de compensation, en fait. Ce ressenti-là, il est compensatoire. Il me permet de tenir, c'est ça. Compensation, alors c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je fais partie du ressenti, mais c'est plus compliqué parce qu'évidemment, je dirais, alors, c'est des termes, il y a la compensation interne, ce dont je viens de parler. Dans l'emploi que j'ai, je vais trouver des compensations à ce qui m'embête dans cet emploi. Le fait que j'ai un chef, c'est quoi, tout ce qui m'embête. Il y a quand même, je vais réussir à m'exprimer, à voir les autres, très bien. Mais il y a aussi une forme de compensation que j'appellerai externe. À savoir, si je me lève ce matin et que je vais au travail, donc ça fait toujours partie du ressenti, ça ne me permet pas d'avoir une rémunération à la fin de ma journée. Enfin, ça fait partie, on ne va pas me demander ça, et je vais pouvoir aller à la carte faire mes courses, etc. Et qu'il y a aussi ce bien-être-là. J'ai besoin de mon travail parce que j'ai besoin aussi pour m'épanouir, de consommer. Donc la consommation fait partie de cette compensation ressentie, consciente que nous avons. Ça va? Alors je dirais, c'est comme s'il y avait deux formes de compensation, une interne à l'emploi lui-même, puis une plutôt externe, c'est-à-dire elle n'est pas liée à l'emploi elle-même, mais plutôt aux ressources monétaires éventuellement que me donne cet emploi, le salarié. Parce que quel bonheur, quel bonheur, trouver au milieu des réunions, comme ça, choisir des choses, des marchandises, quel bonheur, c'est besoin de ça, c'est une compensation. Ça va? Ça permet de tenir, parce que d'accord, je vais m'embêter toute la journée, mais alors ce soir, qu'un coup, c'était pour évidemment, c'est très caricatural. Je ne sais pas si je suis dans qu'un coup. Mais du coup, des ressentis, pour voir, des fois, regarder les gens, alors quand je me vois, vous allez à qu'un coup, c'est bien, mais je sais. Moi, je sais que c'est les rayons garous. Je salue. C'est incroyable, les gars, c'est le choix qu'il y a, ils sont tous bons. Bien. Le vin aussi, mais c'est autre chose. Bien. Et bien, sans mon travail, je n'aurais pas cette compensation. Je n'aurais pas cela. Alors, c'est pas que je n'aurais pas cette compensation, c'est que je n'aurais pas cela qui est une compensation. En fait. Je me suis embêté toute la journée, mais alors. Le bon vin, le bon yaourt, c'est incroyable. Quel bonheur. Donc voilà, et ça c'est bien un ressenti conscient. C'est rien à dire là-dessus. Et souvent d'ailleurs, on part de ce ressenti pour parler du travail. Vous voyez ? Le problème là-dedans, c'est qu'il y a une partie inconsciente en fait. Mais en même temps, une partie inconsciente, qui est liée d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a séparé, mais c'est lié, c'est le fait que ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je le ressens comme ça, je le vis comme ça, mais si je me mets à utiliser ce que je viens de dire comme justification du fait que le travail est important, voyez, ce que je vois pas à ce moment-là, c'est que inconsciemment, évidemment, ça veut dire que déjà tout était prêt là pour que je donne cette importance à la chose. Je ne m'interroge pas consciemment à ce moment-là, à savoir si, est-ce que c'est bon de vivre le bonheur dans qu'un coup plutôt qu'ailleurs, je ne me pose pas la question, c'est une évidence. C'est que inconsciemment, j'ai en fin de compte intégré l'idée que la société de consommation, si je reprends l'exemple de Carrefour, la société de consommation, pardon, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Et que donc on a besoin d'entreprises qui créent des marchandises, donc j'ai intégré tout ça. Mais ça, c'est inconscient par contre. Je le ressens comme la réalité, justement. Je fais comme si ça avait toujours été comme ça. Enfin, c'est ce que va essayer de montrer Bernard tout à l'heure. C'est que c'est discutable. Enfin, peut-être toujours comme ça. Et que le fait de le présenter comme étant ça, c'est ça le bonheur, c'est Carrefour le bonheur. Et ça a toujours été Carrefour, aussi loin qu'on remonte. Évidemment, le fait de le présenter, en fin de compte, ce n'est pas une réalité, c'est une justification de mon mode de vie. Ça me permet de tenir aussi. Mais c'est une forme de justification. Alors c'est ce que Bernard Vaquet, j'ai introduit comme un terme, mais dans le vocabulaire des économistes, C'est ce qu'on appelle l'idéologie, en fait. Là, vous avez ce qu'on appelle une idéologie, c'est-à-dire on a un système de pensée dont on n'est pas conscient. Les présupposés ne sont pas conscients. Le bonheur, c'est la consommation, je l'intégrerai. Je ne le discute même pas. Un système de pensée qui est bien un système de valeurs en même temps, que j'ai intégré par l'éducation, par là on retrouve tout le problème de l'éducation dont on avait essayé de parler la dernière fois, l'éducation, la famille évidemment, et puis la vie de tous les jours, parce que la vie fonctionne comme ça. La société dans laquelle on est fonctionne comme ça. Donc si elle fonctionne comme ça, ce qui fonctionne comme ça est vrai. Je n'ai pas à m'interroger, puisque c'est réel, donc c'est vrai. Le problème c'est que c'est pas parce que c'est réel que ça doit être, hein, j'en sais rien en fait. Mais je ne peux pas m'interroger là-dessus, vous voyez. Et si je m'interroge, ben c'est un postulat, mais comme on le fait maintenant, je suis sûr que tout à l'heure, j'en sais rien, hein, j'imagine que tout à l'heure, là, vous avez déjà entendu dans votre tête, voilà, le cours finit à 4h, 4h30, la CEO, là, le prix n'est pas loin, et ça continue, c'est là. Ça ne suffit pas de s'arrêter de prendre des sujets. Inconsciemment, ça marche, vous comprenez l'idée. Donc c'est très difficile de sortir de ça. Alors je voulais simplement pour finir, j'ai laissé la parole à Bernard. Évidemment, c'est le bas du tableau. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que si on est dans un système qui est ressenti comme étant plutôt valorisant, avoir un travail c'est plutôt bien. Ça me permet de m'exprimer, ça me permet d'être avec les autres. Et en plus, ça permet d'être heureux, carrefour. Donc c'est plutôt bien d'avoir un travail. Alors, si une fois je fonctionne comme ça, malgré tout, ça ne change rien en fait. Que le, dans mon emploi, au travail, je peux avoir des problèmes avec mon chef, etc. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Évidemment, le problème devient ici de rendre le travail humain. D'avancer un peu et de rendre le travail humain. Je vous rappelle, de l'emploi du temps que vous avez donné, mais les deux séances prochaines seront sur justement. C'est quoi rendre le travail soutenable? Et donc, quelqu'un qui a là, d'ailleurs, qui travaille dans ce milieu-là, où, le coaching, on va vous expliquer, eh bien, ce qui est mis en place aujourd'hui dans les entreprises, en monde du travail, de l'emploi, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel levier a-t-on à ce niveau-là pour rendre le travail non seulement source de valeur au sens carrefour, etc., mais en plus, en lui-même, soutenable. Est-ce que c'est possible? Ah, évidemment, c'est possible dans un système où on ne cherche pas à changer les choses. Parce qu'on dit, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que les choses telles qu'elles fonctionnent, on pense que c'est réel, qu'elles doivent fonctionner comme ça. Donc, l'idée de les changer ne vient pas, tout simplement. Ça va? Mais on peut quand même les rendre encore plus soutenables, meilleurs. Le coaching, on verra ça les prochains cours, avec un coacher. Voilà. On voit bien qu'on est dans un travail là, plus d'idéologie qui s'exprime sans vraiment être interrogé en fait. Alors on verra ça par la suite plus tard, parce que c'est prévu, mais c'est un peu le problème à ce niveau-là. Même si on sent bien que par contre c'est très positif. Parce que moi, je préfère avoir, sincèrement, quand je vais au boulot, si en plus de carrefour, si en plus du fait d'avoir un boulot, ça me permet d'encontrer des gens que je n'aurais jamais vu sans ça, évidemment, en plus, je sais qu'en allant au boulot, je vais avoir un coacher qui est là et qui va faire en sorte que je me sente bien dans mon boulot, c'est bien. Je demande à l'autre, c'est bonheur. Hein. Donc, il s'agit, c'est pas forcément, c'est pas une critique ce que je dis là, hein. On verra plus tard s'il y a une critique possible. D'ailleurs, le coacher lui-même, il se passe, hein, mais c'est pas une critique, il faudrait pas l'entendre comme. C'est plutôt, oui, apparemment, cette idéologie, entre guillemets, qui glorifie au sens d'entend Nietzsche le travail, en fin de compte, elle n'est peut-être pas si légitime que ça, puisqu'on peut vivre comme ça. On peut même bien vivre comme ça. Pourquoi le changer? Puisqu'on peut bien vivre comme ça. Vous voyez l'idée? En fait, tout dépend maintenant, à partir de maintenant, tout va dépendre de l'évolution du coaching. Plus le coaching sera performant à ce niveau-là, coaching et d'autres choses évidemment, sera performant à ce niveau-là, mieux on sera. Ils t'attendent. Voilà, donc il s'agit de rendre le travail soutenable, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est tout ce qui reste à faire, parce que le reste qui est là, Carrefour, est là. Très bien. Les emplois existent, il y a l'école pour nous y former, etc. Tout est là, sauf peut-être ce côté encore pénible. Quand je vais au boulot, ben, je ne peux pas toujours m'exprimer parce que j'ai un chef qui me dit non, on fait ça, on fait ça, etc. Ben, donc, si je peux avoir un coaching en plus, un coach qui me dit ben, tu vois, ben, la façon dont tu ressens les choses, je vais t'aider à mieux les ressentir. D'ailleurs, c'est bonheur. Donc voilà, alors, je ne sais pas si tu as été. Alors pour introduire, oui, ce que je vais dire maintenant, c'est qu'évidemment là, c'est ça que je veux dire, c'est qu'évidemment là, on fait comme si ce qui était le plus important, c'est ça qu'on voulait dire la dernière fois, qui était compliqué, mais qui devrait être clarifié aujourd'hui, ce qui était le plus important pour nous, parce que c'est le ressenti, d'abord, la vie, qu'on ressent, pas ce qui est réel, mais ce qu'on ressent du réel, le plus important, le moral, la valeur morale, hein, pas le plus bénéfique sur le plan humain, ça finit par masquer la réalité même du travail, qui lui, évidemment, tient ses sources et ses conditions de l'ordre économique, du mode dans les ressources sociales dans lesquelles on se trouve. Et donc, c'est là-dessus, c'est-à-dire que, on ne peut pas nier la valeur morale du travail, mais si on accorde donc le source, le travail comme source de valeur morale, on ne peut pas nier cet aspect-là, mais si on dit que c'est ça qui fait le travail, que c'est ça qui fait son importance, c'est-à-dire le travail comme source de valeur morale, eh bien, ça veut dire qu'on passe au second plan le fait qu'en même temps, le travail est aussi une source de valeur économique et qu'on ne pose pas les problèmes qui se posent à ce niveau-là. On ne les entend pas, les problèmes qui se posent à ce niveau-là. Les économistes sont inaudibles parce qu'ils ne parlent pas de Carrefour, du coaching, ils ne parlent pas de ce qui nous intéresse, nous, dans la vie de tous les jours. Donc, ils deviennent inaudibles. Alors, à ce moment-là, la question devient même, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on ne fait pas passer, pardon, quelque chose inessentiel pour l'essentiel, et inversement. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on rencontre au niveau moral, entre guillemets, il faut bien qu'ils viennent de quelque part, ce problème. La source de ces problèmes n'est peut-être pas morale non plus. Elle peut être d'un autre ordre. Vous voyez l'idée? Mais cette idée n'est pas la mienne, c'est de Bernard, c'est lui avec la psychologie. Voilà.
Bien. Marx dirait que nous venons de faire précisément ce qu'il ne faut pas faire. À savoir que nous venons de penser la tête en bas et les pieds en l'air. Donc nous pensons avec nos pieds, éventuellement. Alors, remettons-nous les pieds sur terre et essayons de penser, non plus simplement de ressentir. Et nous trouvons là une différence. C'est que mon ressenti, et vous l'avez compris, j'imagine, en écoutant Didier, mon ressenti est une conséquence. Mais si je veux parler de la conséquence sans parler de la cause, ben je n'arriverai jamais à comprendre ce qui se passe. Et donc je serai toujours dans l'illusion, dans la mystification, dans ce que certains appellent précisément l'idéologie, qui a pour fonction non pas de nous faire connaître le réel. Un discours idéologique n'a pas pour fonction de transmettre des connaissances. Il en transmet parfois. Parce que s'il n'en transmet aucune, il devient inaudible. Mais son objectif n'est pas d'accroître les connaissances. Il est de produire un effet. Et l'effet ici, c'est effectivement de supporter ce qui est insupportable. En le transformant par le ressenti que nous en avons, et en analysant le ressenti, et en justifiant ce ressenti, tout simplement parce que si ce que je ressens du réel m'apparaît insupportable, eh bien je n'ai plus que deux conséquences. ou je m'attaque à le transformer réellement, ou j'en désespère, je n'en ai pas le courage, et je ne peux plus me regarder dans la glace le matin en me rasant ou en me peignant, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui tout simplement démissionne. Donc pour ne pas avoir ce sentiment, j'invente des histoires dans lesquelles ce qui est insupportable devient supportable. Et dans lequel ce qui est insoutenable devient soutenable. Et dans lequel ce qui est inadmissible devient justifié. À la limite, c'est moi qui ai tort. D'où, voilà ce qui arrive quand on essaie de penser la réalité à partir du ressenti que l'on en a. Le ressenti que l'on en a fait partie de la réalité, bien sûr. Mais il n'est pas le point de départ. Il est le ressenti de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ça fonctionne comment? D'où vient mon ressenti? Partir du ressenti, c'est donc partir, comme nous dit Marx, penser la dépendance. Donc les valeurs morales, bien sûr, elles existent. Bien sûr, elles interviennent. Bien sûr, une fois qu'elles sont là, elles ont leur efficacité. Mais elles ne sont là que parce que, avant elles, il y a quelque chose qui les provoque, qui les fait naître, qui les rend possibles. Et ce quelque chose qui les fait naître, qui les provoque, qui le rend possible, le problème c'est qu'en partant de la valeur morale, je n'arrive jamais à le déterminer. Ou du moins, historiquement, je me contente, sous prétexte que c'est noble, je me contente de rester au niveau de la valeur morale, sans me préoccuper de savoir, mais d'où vient-elle ? D'où vient que je pense ceci? D'où vient que je pense cela? D'où vient que mon ressenti est celui-ci? D'où vient que mon ressenti est celui-là? Et que donc, le point de départ, eh bien, c'est cela d'où ça vient. Et que là, eh bien, on est dans un type d'analyse qui ne part pas du ressenti, mais qui essaie effectivement de raisonner sur la façon dont l'homme, la structure sociale dans laquelle je me trouve, s'est organisée concrètement pour résoudre les problèmes qui étaient les siens. Non pas la façon dont elle pense qu'elle a bien fait ou qu'elle a mal fait, mais de la façon dont elle a organisé sa façon de vivre. Et là, eh bien, on en est dans la partie, alors qu'on appelle de gauche, je n'ai pas le sentiment de tenir un discours de gauche. Et ne vous méprenez pas, je ne fais de propagande pour aucun parti politique. Bien que ceci soit clair, mon discours n'est pas un discours politique, mon discours est un discours qui se veut philosophique, c'est-à-dire qui cherche à vous donner des outils conceptuels nécessaires à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Du monde dans lequel nous vivons et des discours qui sont tenus et que je peux entendre sur ce monde dans lequel je vis. Le travail, source de valeur, oui. Source de valeur économique, oui. Source de valeur morale, oui. Mais autre chose, qu'est-ce qui donne de la valeur aux choses? Nous ne sommes plus dans une structure sociale où le troc existe. Je ne suis pas autosuffisant. Donc il y a une division du travail. Nous ne sommes plus dans une structure sociale, nous sommes en autarcie. Tous les besoins que nous avons et les objets dont nous avons besoin pour satisfaire ces besoins précisément, eh bien, nous pouvons les produire tous. Il y a une division du travail qui rend possible une vie sociale. J'ai besoin de pain, il y a un boulanger. J'ai besoin de viande, il y a un boucher. J'ai besoin de bottes, il y a un marchand de chaussures. Voilà, donc. Mais comment échanger ces différents objets? Quand je vais aller chez le boulanger, je veux une baguette. Bien, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Au niveau du troc, ça deviendrait très compliqué. D'où nos sociétés ont organisé un autre mode de fonctionnement. On ne fait plus un échange par troc. On fait un échange, effectivement, par une donnée intermédiaire qu'on appelle la monnaie. Donc, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Tu me donnes, selon là où vous allez acheter votre baguette, entre 45 centimes ou 1,05 €. Bien. Comment déterminer la valeur de la marchandise que vous achetez? Qu'est-ce qui fait que tel objet a une valeur? Et qu'est-ce qui fait que je peux échanger non plus un objet contre un autre objet, mais un objet contre une certaine quantité d'argent qui correspond effectivement à ce que j'appelle la valeur du produit? Mais d'où vient ce calcul? Pourquoi 0,45 entre 0,45 et 1,05 €? Là, on a une première distinction, c'est que la valeur d'une chose n'est pas forcément son prix. Donc il y a une différence entre le prix d'une marchandise et puis sa valeur. Vous achetez une voiture d'occasion, mettons. Vous allez chez un garagiste, vous avez une voiture d'occasion, on vous la vend 2 000 €. On dit, c'est une affaire. C'est une affaire. C'est une affaire, simplement, elle ne marche pas. Donc, elle ne vaut rien. Mais vous avez payé 2 000 €. Inversement, c'est la période des soldes. Moins 30, moins 50, moins 70, moins 90%. La valeur du produit a-t-elle, elle, modifié, a-t-elle, elle, changé de moins 30, moins 50, moins 60, moins 90%. La valeur du produit, non. Son prix, oui. Donc la valeur d'une marchandise n'est pas équivalente à son prix. Son prix est le résultat de la concurrence interne à un moment donné, dans la structure sociale donnée, des différents producteurs du même produit. Donc c'est un phénomène de concurrence. Mais donc on n'a pas répondu à la question d'où vient la valeur du produit. Pourquoi un produit vaut-il cela plutôt que cela? Qu'est-ce qui constitue sa valeur? Alors là-dessus, il y a plusieurs théories. Il y a des théories, par exemple, qui nous disent que ce qui fait la valeur d'un produit, c'est sa rareté. Ce qui est rare est cher. Ce qui n'est pas rare n'est pas cher. Bien. Est-ce que c'est une théorie suffisante? Alors, ce qui est rare, qu'est-ce qui est rare? Mettons un diamant. C'est cher. Ce qui n'est pas rare, pour l'instant chez nous, encore, c'est long. C'est plus ou moins cher. C'est moins cher qu'un diamant. Bien. Donc pourquoi l'un est-il moins cher, a-t-il moins de valeur que l'autre? Est-ce que c'est la rareté du produit qui détermine sa valeur? Si on y réfléchit bien, ce qui est rare est peut-être difficile à produire et à trouver. S'il est difficile à produire et à trouver, c'est qu'il va falloir consacrer pour le trouver un travail plus important que pour trouver et produire un objet qui n'est pas rare. Alors, d'autres théories, ce qui donne de la valeur à un produit, c'est son utilité. Comme il est utile, il a beaucoup de valeur. S'il n'est pas utile, il n'a pas beaucoup de valeur. Alors là, cette théorie ne tient pas, parce que tout le monde saura que, précisément, ce qui est souvent utile, eh bien, ce n'est pas forcément ça qui est le plus cher, et que ce qui est le plus cher, c'est ce qui ne sert à rien. Ce dont on pourrait très bien se passer, mais dont on ne se passe pas pour d'autres raisons. Et donc, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Alors, y a-t-il une bonne réponse? Il y a au moins, parce que tout ça est l'objet de débat parmi les économistes, il y a au moins une réponse courante. Une réponse courante, en général, admise. Depuis Smith, Ricardo, et d'ailleurs repris d'après par Marx. C'est que ce qui donne de la valeur à quelque chose, c'est la quantité de travail qui y est incorporée. Plus un produit demande qu'il y ait une force de travail qui se soit consacrée à sa production, plus il a de valeur. Donc là, le travail n'est pas simplement source de valeur en tant que produit, qu'il produit des marchandises, mais c'est lui, c'est le travail lui-même, c'est la quantité de travail fournie qui donne de la valeur aux choses. Quelque chose, un produit qui ne nécessite aucun travail, n'a pas beaucoup de valeur. Un produit, dans cette théorie-là, un produit qui nécessite beaucoup de travail aura plus de valeur. Alors, là également, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. C'est en général la théorie qui est le plus admise. Parce que, au niveau des valeurs, alors effectivement, au niveau de la valeur, on a distingué tout à l'heure la valeur et le prix. Et il faut distinguer deux types de valeurs. Il y a des produits qui ont une valeur d'usage, ce qu'on appelle une valeur d'usage, c'est-à-dire c'est leur utilité. Effectivement, si je vais acheter une baguette, c'est parce que j'ai faim. Si j'achète un manteau, c'est pour résister au froid. Donc, le produit a une valeur d'usage. Mais il a aussi une valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est précisément ce qui va me permettre de l'échanger contre d'autres produits. Et cette valeur d'échange, eh bien, c'est, pour pas l'avoir dit, c'est quand ça devient une marchandise et ça se traduit dans notre société par de la monnaie. Ça vaut tant. Bien. La valeur d'usage est inévitablement limitée physiquement. Je peux bien sûr m'acheter 20 manteaux pour garnir ma garde-robe, mais je n'en porte en général qu'un à la fois. Bien. Manger, c'est de la valeur d'usage, la nourriture. Je ne peux pas manger toute la journée. je ne peux pas boire non plus toute la journée. Donc, l'utilisation et la recherche de la valeur d'usage est obligatoirement limitée. Sauf si cette valeur d'usage, je veux en faire l'origine d'une marchandise. Si j'achète des manteaux pour les revendre, j'en utilise valeur d'usage 1, valeur d'échange tous les autres. Si je travaille dans l'immobilier, j'ai une maison déjà de 18 pièces, seule avec mon épouse, c'est largement suffisant. Ça nous permet de nous fâcher de temps à autre. Et voilà, on peut très bien. Mais il se trouve que j'ai 10 maisons. Alors là, une de, je ne sais plus combien de pièces j'ai dit, déjà ça me suffit largement. Les autres, je les loue, ou je les vends, donc je les transforme en source de valeur d'échange. Et elles ne sont plus des valeurs d'usage. Donc la valeur d'usage est obligatoirement limitée. Est-ce que la valeur d'échange, la recherche de la valeur d'échange, elle, est limitée ? Eh bien déjà, Aristote nous dit que non. Il n'y a pas de limite ni rationnelle, et surtout pas de limite rationnelle, à la recherche de la valeur d'échange. C'est-à-dire que la valeur d'échange, elle peut s'accroître sans cesse. Mon compte en banque, rien ne s'oppose à ce qu'il passe de 300 000 euros à 600 000 euros. Mon banquier sera content. Rien ne s'y oppose. Rationnellement, est-ce que moi je peux m'y opposer ? Peut-être. Si je n'ai pas intégré les valeurs, précisément, d'une structure sociale dont la recherche principale est peut-être la valeur d'échange et non pas la valeur d'usage. D'où, à ce niveau-là, c'est là où l'on rejoint les valeurs morales. C'est au nom d'une valeur morale éventuelle que je peux mettre un frein à ma recherche d'une valeur d'échange. Mais en dehors de cela, non. Si rien ne s'y oppose de matériel, maladie, ceci, enfin, des tas de choses qui peuvent intervenir, je peux toujours chercher à augmenter mon compte en banque et la valeur d'échange. Dans la structure sociale qui est la nôtre, dans le système de production qui est le nôtre, qu'est-ce qui est principalement recherché ? Est-ce la production de valeurs d'usage, c'est-à-dire de produits utiles aux membres de la structure sociale dans laquelle je me trouve ? Qui va déterminer leur utilité ? En fonction de quoi vais-je déterminer que ce type de produit est utile socialement ? Est-ce comme cela que notre structure, que notre système de production fonctionne ? Ou est-ce que notre système de production fonctionne principalement dans la recherche de la marchandise ? C'est-à-dire non pas du produit comme valeur d'usage, mais du produit comme valeur d'échange. Et que donc ce qui est recherché, c'est ce qui est producteur de valeur d'échange. D'autant que cette valeur d'échange, elle a elle-même une valeur d'usage. Cette valeur d'échange est une valeur d'usage en tant qu'elle-même productrice de valeur d'échange supplémentaire. Parce que mon compte en banque a 300 000 euros, c'est pas si mal. Faites un calcul avec un taux d'intérêt relativement bas, tout tous les mois, j'en récupère au moins 10 000. Donc ma valeur d'échange a eu comme usage de produire de la valeur d'échange. Et c'est comme ça que l'on finit par croire, eh bien, que nous sommes passés d'un système capitaliste industriel à un système capitaliste financier où la finance produit elle-même de la valeur. Ce qui, dans ce cas-là, ce n'est plus le travail qui produit de la valeur. C'est la finance qui produit de la valeur, qui s'auto-produit. Je peux le croire, mais si je raisonne, je ne peux plus le penser. Parce que mes 300 000 euros qui me rapportent 10 000 euros, mettons, alors, peu importe le calcul, là, je sais pas. Mais, 10 000 euros par mois, bien, mon banquier, qu'est-ce qu'il en fait? Il les met dans sa chaussette? Non, il les investit. Il les investit là où effectivement un système de production va les transformer en valeurs d'usage qui va lui rapporter des valeurs d'échange. Si bien que s'il me donne à la fin du mois 10 000 euros supplémentaires, c'est parce que les 300 000 euros que je lui ai mis sur mon compte ont été investis dans un système de production du travail a été payé. Alors, comment se fait-il que, finalement, au bout du compte, il y ait du bonus? Parce que ce travail, il est payé. Donc, si le travail est payé, ben, il faut dépenser de la valeur d'échange. D'où, si la valeur d'échange que je dépense pour payer le travail qui va servir à la production de produits est aussi grande que la valeur d'échange que ces produits vont me rapporter. Ben, j'aurai jamais 10 000 euros à la fin du mois. Pourquoi j'ai 10 000 euros à la fin du mois? Parce que j'ai mis 300 000 euros sur mon compte en banque. Il faut que ces 300 000 euros servent dans un système de production où le coût de la production soit inférieur au coût de la vente des produits. D'où, dans l'opération, qu'est-ce qui change? Ce n'est pas la valeur de la matière première, ce n'est pas la valeur des machines. Ce qui change, c'est que tout simplement, la valeur qu'a coûté la force de travail pour produire les marchandises dont il est question, elle n'est pas payée au prix que ces produits rapportent. Comment analyser le phénomène? Alors, c'est là le premier texte que vous avez derrière. C'est que comment est calculé un salaire? Comment est calculé un salaire? Bien, je suis dans un système de production où j'ai une entreprise, bien, qui est là, mais qui bien sûr a besoin de travailleurs, de salariés, pour produire. Donc, je vends à cet employeur, dans un contrat libre, égal et fraternel, bien entendu, parce que je suis en démocratie, bien, donc je lui vends ma force de travail pour 8 heures par jour. Voilà, pendant 8 heures, je vais travailler chez toi, je mets ma force de travail à ta disposition, simplement, demain, il faut aussi que je recommence. Donc, donne-moi donne-moi au moins de quoi reconstituer pour demain ma force de travail. Et que demain je sois aussi en forme qu'aujourd'hui, pour produire la même quantité de marchandises. Parce que si après avoir travaillé 8 heures chez toi, pour demain, je tire la langue, ben, tu ne vas pas y gagner, puis moi non plus. Toi, à la limite, tu t'en fous. Parce que comme on est dans un système où tout le monde est égal, moi partir, notre bien. L'égalité, c'est aussi le fait qu'on est interchangeable. Et que, pour mettre des boulons, alors évidemment, pour un prof, c'est compliqué. La formation est plus longue. Mais à la limite, c'est marrant. Mais à la limite, on remplace pas. Bien. Nous, donne-moi de quoi reconstituer ma force de travail. D'accord, oui, bon, ben, ça coûte combien? Ben, ça coûte mon loyer, ça coûte ma nourriture, ça coûte mes vêtements, ça coûte ceci, ça coûte cela, ça coûte bon, ça s'évalue. Ça fait tant. Ça fait tant. Ben, c'est mon salaire minimum garanti au niveau de l'organisation sociale qu'est la nôtre. Un calcul de ce type arrive à. Et bien sûr, il y a la lutte interne entre le salarié et puis l'autre. Oh, c'est pas suffisant. Si, c'est largement suffisant. Moi, il faut que tu augmentes de 5%. On augmentera pas plus de 2%. Ça vous rappelle ce que je fais actuellement. Donc voilà. Donc il y a une lutte interne. Il y a une lutte pour que l'augmentation de la valeur de cette force de travail que je mets à ta disposition pendant tant d'heures par jour. Ok. Avec ça, c'est bon, on a fini par s'entendre. Et tu me payes tant. Mais en payant tant, ça fait tant. Pendant ces 8 heures, moi je te produis de la marchandise. Et cette marchandise, tu vas la vendre. Tu vas la vendre combien? Ben, si je la vends moins cher que ce que je te donne, je fais ma boutique et je te mets au chômage. Bon, tu la vends combien? Eh bien, on va calculer. Et en fait, avec le produit de la marchandise, eh bien, mettons le patron ou l'entreprise pourra payer non pas 8 heures, mais mettons 10 heures, ou 11 heures, 12 heures, ou 13 heures de travail. Mais il faut qu'il en paye au moins 8. Et si possible, 9. Le 8, c'est juste. Bon. Mais si ma force de travail lui a coûté, mettons, 8 heures de travail pour la reconstituer, l'équivalent de 8 heures de travail pour la reconstituer, et que la valeur des marchandises qu'il en retire lui permettrait de me payer, non pas 8 heures, mais 12 heures de travail, les 4 heures de différence, c'est ce que j'appelle la plus-value. C'est ce que j'appelle la plus-value. Ça, c'est mon travail qui est source d'une valeur supplémentaire au coût nécessaire pour sa reproduction. C'est-à-dire que l'homme, la force de travail, par sa force de travail, l'homme est capable, dans notre système actuel, dans notre système donné, de produire des valeurs d'échange supérieures à celles qui sont nécessaires à sa propre reproduction. D'où cette différence, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Cette plus-value, c'est la source, effectivement, de la richesse du pays. Sauf que dans notre système de production, eh bien, il n'est pas la source de la richesse du pays, il est la source de la richesse des chefs d'entreprise, des entreprises qui, dans notre système, ne sont pas des entreprises d'État, mais sont des entreprises privées. Donc il y a appropriation privée de la plus-value dans notre système de production. Cette appropriation privée fait que, au niveau de l'organisation de l'entreprise, au niveau des choix des objectifs de l'entreprise, eh bien, cela échappe à la détermination collective. Chaque entreprise détermine elle-même, en tenant compte bien sûr du contexte, mais seul le contexte le fait, et seule la concurrence le fait, le permet de le faire, détermine ses objectifs, ses conditions de travail et l'ensemble de son mode. Et que par rapport à cela, eh bien, le salarié, lui, n'a objectivement aucun pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas lui demander son avis. Mais il n'a aucune possibilité décisive dans la marche de l'entreprise. Et que ce rapport de subordination, c'est ce rapport de subordination objectivement déterminé qui peut s'accompagner de tous les ressentis psychologiques que l'on veut. Des positifs, des négatifs, de toutes les manœuvres possibles que les rapports humains peuvent permettre. De tous les rapports de petit chef à grand chef, de tous les rapports de petit chef à celui qu'on a moins, de tous les rapports de pouvoir camouflés, qui font que, eh bien, l'ambiance au travail, ou est excellente, ou est insupportable. Mais que l'ambiance soit excellente, ou que l'ambiance soit insupportable, la structuration du fonctionnement, lui, reste le même. On a une structuration, un mode de fonctionnement qui, en tant que tel, peut aussi bien permettre, si que l'inverse, si et le si, c'est tout simplement l'immense variété. Les pessimistes diraient l'immense turpitude, les optimistes diraient l'immense, tout ce qu'on voudra, des comportements humains, mais l'immense variété. Et que cela, eh bien, déjà Machiavel, qui est un Florentin italien, nous expliquait que on ne peut pas organiser une société sur tout simplement le ressenti de ses membres et sur la bonne volonté de ses membres et sur la conscience morale de ses membres. Quand tout ceci existe, c'est parfait. Mais rien ne nous assure que quoi que ce soit de ceci puisse exister. Et que une structure sociale doit s'organiser de manière telle que ses membres, qui n'ont pas besoin de s'aimer, qui peuvent même éventuellement se détester, qui peuvent n'avoir absolument aucune envie de vivre ensemble, et qui peuvent être de parfaits voyous, et non pas des hommes honorables, il faut que la structure sociale soit organisée de telle manière que malgré tout, ils puissent vivre ensemble. Et que cela, eh bien, c'est le rôle d'une structure sociale. Et le rôle d'une structure sociale n'est pas de s'appuyer sur la bonne volonté de ses membres. Elle est de faire en sorte que, quelle que soit la volonté de ses membres, eh bien, ils puissent vivre ensemble. D'où, on a là effectivement deux attitudes qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et que dans un cas, eh bien, Alors c'est le... C'est l'opposition qui est à la fin du schéma. Pardon ? Ah oui, oui, l'opposition à la fin du schéma. C'est que rendre soutenable, bien sûr rendre soutenable, mais on l'a vu après l'intervention de Didier, rendre soutenable. Pourquoi rendre soutenable ? Pourquoi rendre soutenable ce qui peut-être est insoutenable ? Alors si c'est insoutenable, c'est là où on en revient et où on le comprend en partant du schéma d'ici. Ce qui se passe dans le schéma d'ici, c'est que si j'accepte ce rapport de subordination, où finalement chaque jour que je travaille, eh bien une partie de la valeur que je crée est accaparée par un système dont tout m'échappe dans les déterminations et qui exerce sur moi son pouvoir. Si j'accepte cela, c'est que finalement, eh bien, j'y retrouve mon compte. Et j'y retrouve mon compte, effectivement, par les compensations, par le fait que si je veux bénéficier de tout ce que les gouvernements en place ont mis, petit à petit, pour pouvoir rendre possible la vie tout simplement économique de ses membres, eh bien, il faut que je sois salarié. Parce que c'est la condition pour participer, pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages-là. Et que pour pouvoir jouir d'un niveau de consommation qui va me permettre d'être invité à l'apéritif par mes voisins, parce que je suis un individu normal, qui a un mode de vie normal, et qui pense comme tout le monde, et que, ben, quand vous n'avez pas la télévision chez vous, ah bon, alors comment vous faites pour être informé? Ah ben, je dis Le Monde. De quoi? Ah, Le Monde. Ah oui. Non, non, mais la télévision, c'est bien. C'est bien. Vous n'avez pas de portable? Ah ben, si, j'ai un portable. Un portable. Ah, vous n'avez pas un iPhone? Quoi, il parle? C'est quoi, ça? Ah, bon. Bon. Vous ne serez plus invité. C'est fini. C'est fini. Et puis ne les invitez pas, ces gens-là. D'où ben, vos enfants à l'école, ils sont bizarres. C'est des gens étranges. Alors on apprend plus tard que. Oh ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. D'où le meilleur garant. Le meilleur garant de la moralité publique, c'est la conformité à, ses voix, à son voisinage. Faites attention à votre voisinage. Soyez en bon terme avec vos voisins. Commencez d'abord par les connaître, parce que le meilleur du temps, vous ne les connaissez pas. Mais en ne les connaissant pas, au moins, ils ne vous connaissent pas non plus. Ah bon, on n'a pas de rapport avec eux, mais enfin, non, 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 ben, ils ont l'air gentils. Donc voilà, si vous voulez, les compensations. C'est que je vis une vie normale. C'est un beau rêve, quand même, de vivre une vie normale. Je suis normalement sans projet. Je suis un individu normal qui ne rêve de rien, mais qui se contente de manger, dormir, se déplacer, travailler, métro, boulot, dodo. C'est une vie qui me convient. Moi, je ne suis pas ambitieux. À 40 ans, je m'emmerde. À 50 ans, j'ai pas eu. Ok. Et quand je suis vieux, je n'ai plus envie de vivre.
Ok.
Quelle belle vie. À une certaine époque, on disait que c'était simplement survivre. Non pas vivre, mais survivre. Mais si vous voulez vivre, précisément, et non pas simplement survivre, eh bien, dans ce cas-là, vous suffit-il, cette compensation vous suffit-elle? Sans doute pas. Alors c'est là que l'autre donnée intervient. Non seulement la compensation existe, mais la justification existe. C'est que de toute façon, je ne peux rien. Je ne pourrais pas le changer. Ça a toujours été comme ça. Les hommes sont comme ça. Et les femmes aussi. Et donc, je veux dire, l'être humain, il y en a toujours qui sont faits pour commander, d'autres pour obéir. Il y en a toujours qui profitent et puis d'autres qui sont bouffés. Ça a toujours existé.
Est-ce qu'il faut?
Ça n'a pas toujours existé. Il y a des structures sociales où ce mode de rapport n'existait pas. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe plus. Mais que si ça n'a pas toujours existé, c'est que ça ne tient pas précisément à l'essence de l'homme, mais à la façon dont la structure sociale dans laquelle il se trouve est organisée. Et quand bien même toutes les structures sociales existantes seraient organisées de la sorte, cela ne me permet plus de dire, que ça tient à l'essence de l'homme, que ça tient à la nature de l'homme. C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer quand on est, c'était des données anthropologiques et non pas des données essentialistes. Mais qu'effectivement, pour changer une structure sociale, ça n'est pas tout à fait la même chose que pour la rendre soutenable. Et que, ben là, effectivement. Alors, je crois que vous en avez déjà parlé, c'est une personne un peu comme vous, enfin un collègue comme vous, mais pas vraiment, enfin, un étudiant de cours que je donne à Voiron, qui m'avait conseillé ce petit livre, ce dialogue entre Gaucher et puis Badiou. Je pense que vous en avez parlé déjà. Que faire? Et où, ben, il y a l'opposition précisément entre les deux, et où Gaucher développe l'idée que notre structure sociale a de quoi en elle-même résoudre les problèmes qui sont les siens, sur lesquels, bon, parce qu'ils se mettent d'accord tous les deux, pour dire qu'on est en train d'aller dans le mur. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on est en train d'aller dans le mur. Bon, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais on y va. Donc là-dedans, ils sont tous les deux d'accord. Par contre, leur désaccord est grand sur quoi faire. Quoi faire, et Gaucher développe l'idée que notre structure sociale, nos démocraties ont de quoi en elles-mêmes résoudre les problèmes auxquels elles se trouvent confrontées. C'est à quoi Badiou répond, vous êtes un grand naïf, monsieur Gaucher. Parce que vous oubliez que dans notre structure sociale, il y a des rapports de pouvoir. Et qu'il n'y a pas simplement des rapports rationnels. Et que ceux qui ont le pouvoir, ils ont une tête, bien sûr. Mais ils ont aussi des viscères. Ils ont aussi des pulsions. Ils ont aussi des intérêts, et qu'on ne voit pas bien pourquoi d'eux-mêmes, simplement parce que leur conscience morale le leur conseillerait, eh bien ils s'asseoiraient sur leur privilège. D'où, voilà, donc l'opposition entre les deux. Ce qui fait que, ben, au bout du compte, voilà, supprimer le travail. Mais quand on dit supprimer le travail, c'est supprimer l'emploi. C'est-à-dire supprimer un système de production dans lequel l'appropriation de la plus-value se fait de manière privée, sans possibilité de contrôle collectif. Donc c'est ça la suppression du travail, la suppression de l'emploi. C'est donc un système de la suppression d'activité par lequel je produis des objets. Mais qu'est-ce qui détermine l'utilité de l'objet ? Belle question. Qu'est-ce qui est utile à la société ? Est-ce que notre système de production est principalement déterminé par la production d'objets utiles aux membres de notre structure sociale ? Ou est-ce qu'elle est déterminée par la recherche, non pas de cette valeur d'usage, mais d'une valeur d'échange qui n'a pas de cesse. Qui n'a pas de cesse, mais qui, s'en reproduisant elle-même, continue à maintenir mon pouvoir en place. Et que le principal usage de la valeur d'échange, il est double, soit de reproduire de la valeur d'échange, soit de me donner du pouvoir sur la structure sociale dans laquelle je me trouve. Et que là, c'est un thème sur lequel on a peu réfléchi, sur lequel des gens comme, par contre, Foucault, ont beaucoup réfléchi, c'est la recherche du pouvoir. D'où vient que le pouvoir fait que certains en rêvent le matin en se lavant. Je suis fasciné par le pouvoir que je peux avoir. C'est joli. C'est une belle phrase. Comment est-ce psychologiquement possible ? Comment puis-je être fasciné par le pouvoir que je pourrais exercer sur mes semblables ? D'où vient cette fascination ? Je pense que c'est un bon sujet de réflexion. Voilà. Bon. Y a-t-il des questions ? J'imagine que oui, mais c'était très clair. Oui.
Je remarque la caricature que vous nous avez faite des gens que vous dites leurs mots, qui se savent peut-être comme ça, mais qui n'ont pas les ressources d'en échapper.
Attendez, excusez-moi, j'ai
fait. La demande, je peux répondre, je vous entends, mais vous reprenez si jamais je me trompe. Vous demandez en fait, mais vous parlez des gens là qui sont pris de la ressenti.
Je rendrai cette caricature que vous nous avez faite des gens dynamos qui savent peut-être qu'ils sont comme ça, mais qui n'ont pas la ressource d'en échapper. C'est à croire leur désormais.
Oui, mais d'où vient que vous me dites qu'ils n'ont pas la ressource d'y échapper ?
Ils n'ont peut-être pas la ressource d'y échapper.
Alors, ils n'ont peut-être pas la ressource d'y échapper. Vous entendrez dans quelques temps un coach vous dire que un des principes du coaching, c'est que de toute manière, j'ai la ressource d'y échapper. Et que, par contre, je peux me masquer le fait que j'ai la ressource d'y échapper. Parce qu'en me masquant le fait que j'ai la ressource d'y échapper, ça m'évite de chercher à y échapper. Je veux dire que... Je vais admettre votre critique sur le fait que ma caricature des gens dits normaux, c'est un peu une caricature, bien évidemment, que la réalité est plus compliquée. Mais l'attitude qui consiste à dire je n'y peux rien, ce n'est peut-être pas une attitude qui a sa justification. J'y peux peut-être toujours quelque chose. Du moins, je peux toujours bouger. Et en bougeant, je change des données de place. Mais il est parfois difficile de bouger. Et il est parfois difficile, surtout, de risquer. C'est-à-dire que pour obtenir quelque chose, c'est la vieille expression, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc pour obtenir autre chose, il faut perdre quelque chose. Alors bien souvent, je ne veux rien perdre. Je voudrais bien que ce soit différent, mais à la condition que ça continue à être pareil. C'est ça qui est compliqué. Ça ne peut pas être pareil. Donc effectivement, ou on va là, ou on va là, ou on reste au milieu. Ou on reste au milieu. Alors on reste au milieu en disant, je n'ai pas les moyens ni d'aller là, ni d'aller là. C'est oublier que de toute manière, si vous êtes là, il y a tout un environnement autour de vous. Vous, vous ne bougez pas. L'environnement, lui, bouge. Et vous vous trouvez inévitablement, que vous le vouliez ou pas, au bout d'un certain temps, en décalage. Parce que peut-être que vous, vous estimez que vous ne pouvez pas bouger, mais le monde autour de vous ne se préoccupe pas de ça, ne se préoccupe d'aucune manière de votre état d'âme. Et lui bouge indépendamment de ce que vous pouvez souhaiter. D'où vous allez vous retrouver dans une situation de plus en plus impossible à vivre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, à 40 ans, je m'ennuie. À 50 ans, je déprime. À 60 ans, je me suicide. Et oui, je veux dire que on ne peut que bouger. Le problème n'est pas de savoir si je peux bouger ou pas. Le problème est de savoir je bouge où. Mais je bouge. Je ne peux pas ne pas bouger. Je ne peux pas. Je ne ferai. Je me bouge en quelque sorte par décalage. Que le monde autour de moi bouge. Le monde n'est pas immobile. Vous avez des enfants, vous n'avez pas de petits-enfants, vous avez des voisins, vous avez tout ceci. Tout ceci bouge, vous regarde. Leur regard, vous le percevez. Et vous dites que vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez tenir ce langage, si vous voulez, que à usage interne. À usage interne et en vous considérant isolément, indépendant de tout ce qui vous entoure. Que de toute façon, vous allez être obligé de bouger. Ne serait-ce que par décalage.
On bouge à l'intérieur du système que vous nous avez décrit.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour cela que où on bouge à l'intérieur du système tel que je vous ai développé. Alors, là encore, je ne cherche pas à vous convaincre d'aucune analyse particulière. Je pense simplement que l'analyse que je vous ai développée n'est peut-être pas l'analyse courante que vous entendez. D'où mon rôle n'est pas de vous convaincre. Que vous pensiez comme moi ou pas, je vous dirais que fondamentalement, ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche simplement à vous donner des outils conceptuels que peut-être on ne vous donne pas souvent. C'est mon rôle en tant que philosophe. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, je ne milite pour aucun parti. Vous pouvez aller, y compris au Front National si vous voulez. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Sans que vous ne me lâchez pas un coup de revolver, je veux dire que c'est pas le problème. Mais ce que je cherche à vous donner, c'est des outils conceptuels que peut-être vous n'avez pas. Si vous les avez, tant mieux, et puis ça va vous conforter dans ceux que vous connaissez déjà. Et je pense que vous ne les avez pas. Et que ces outils conceptuels que je vous ai donnés, quand il en est question, à la télévision, dans les journaux, ils sont dénaturés. Ils sont ou incompréhensibles, ou exprimés de telle manière qu'ils sont inadmissibles. Ce que j'ai cherché à faire, c'est à vous donner des outils conceptuels cohérents, qui se tiennent. Donc je pense que je peux les défendre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Ça n'est pas mon problème. On peut en discuter. J'argumenterai. Argumenter. Mais ça ne sert à rien de dire que celui qui ne pense pas comme moi pense mal. Celui qui ne pense pas comme moi pense aussi bien que moi. Peut-être même mieux que moi. Mais il pense différemment. Eh bien, nous allons en discuter. Mais pour en discuter, il faut d'abord partir du principe que l'autre a des arguments qui se tiennent. Et que si l'autre vous semble, vous êtes présenté de telle manière que vous avez l'impression qu'il est en train de raconter des âneries, de deux choses l'une. Ou celui qui vous en parle mal, ou c'est vous qui ne comprenez pas. Mais a priori, l'autre pense. S'il y a eu un slogan dans les choses de Charlie qui, à mon avis, n'a aucun sens, bien qu'on veuille récupérer des cartes, des points de Charlie, je pense, donc je suis Charlie. Je regrette. Ceux qui ont tué les caricaturistes de Charlie pensent. Et pense peut-être mieux que Charlie. Ce n'est pas le problème. Il n'y a pas besoin de défendre Charlie pour penser. Et le meilleur moyen de rendre service à son adversaire, c'est d'imaginer qu'il n'a aucun pouvoir. Le meilleur moyen de se faire battre. Donc je pense, donc je suis Charlie. Je n'ai pas besoin d'être Charlie pour penser.
Question.
Oui, oui. Il y a le monsieur aussi là-bas.
Oui. Oui, quand tu parles de l'appropriation par le privé de la plus-value, comment considères-tu le cinquième de la valeur d'échange qui s'appelle TVA et qui va dans les caisses de l'État?
Comment on considère la TVA?
Oui,
le
cinquième.
TVA de l'État.
La TVA, c'est bien.
C'est la valeur d'échange.
Oui, c'est un cinquième du produit. Oui, un cinquième du produit.
De la plus-value.
Non, parce que dans le calcul de la plus-value, les charges sont comprises. Et la TVA est comprise. La TVA, le système de TVA, je paye de la TVA et je récupère si je revends. Bien. Donc ça, le coût de la TVA, en principe, c'est à peu près nul, sauf si, avec la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc il y a effectivement un... Ben, si, j'achète un produit à 10 euros avec une TVA à 20%, si je le revends 20 euros avec une TVA à 20%, l'État va me demander la différence. Bien, donc cette différence-là, ok. Mais ça, je calcule de mon prix. Ça, je suis sûr d'anticiper une coûte TVA.
Alors,
excuse-moi, je vais arrêter de le faire dans 36 ans. Un sortiment dans la valeur du produit.
Le prix est fixé par l'échange.
Le prix, c'est moi qui le fixe. C'est moi qui le fixe en fonction de la concurrence. Et j'intègre le fait que la TVA va augmenter. Et quand les restaurateurs précisément demandaient une baisse de la TVA, c'est précisément pour que leur compte soit plus facile à tenir. Et donc on tient compte du fait que la TVA a un coût. Et la TVA a un coût, ça se calcule. Et en fonction de ce coût-là, on détermine le prix de la marchandise. Donc, c'est une autre sur la TVA. La TVA, c'est comme la matière première. La matière première, ben, c'est pareil, il faut même que je l'achète. Donc, dans mon coût de production, il y a la rentabilité des machines, donc l'investissement et puis l'amortissement. Il y a la matière première. Il y a les charges. Il y a les impôts que j'ai payés en fonction de ce que j'anticipe, etc., et que j'avais percute comme ça, mois par mois, et mois par mois, jour par jour, etc., etc. Et puis un salaire. Et tout ça, ça se calcule. Et en fonction de ça, ben ça, c'est mes charges de production. Il faut que mes charges de production soient inférieures, bien sûr, à ce que je vais en tirer. Donc vous m'augmentez la TVA. Très bien, moi, ça m'est légal, je vois qu'est-ce que. Vous diminuez ma TVA, ça me permet éventuellement, c'était une des promesses des restaurateurs, de diminuer leur prix. Mais donc c'est un calcul, c'est une répercussion sur le prix. En tant que tel, ça fait partie des charges. Non pas les charges sociales, mais les charges de production.
Alors, pourquoi les buralistes se plaignent quand on augmente les taxes sur les cigarettes en disant qu'ils en vendront moins parce qu'il y aura des gens qui vendront des cigarettes de contrebande qui coûteront moins cher.
Si tu vends des cigarettes de contrebande, tu ne payes pas de TVA. Si tu vas en prison, quand tu es en prison,
mais ça vient pas de la TVA, ça vient de la.
Si je le fais, je dis que tu m'as porté son rang, je regarde, avance.
Oui, j'avais lu dans beaucoup d'ondes une explication de la plus-value. C'est un peu différente. Il prenait un exemple. Il a fallu 300 ouvriers pour ériger en une heure l'obélisque de la Concorde. Jamais un seul ouvrier n'aurait pu faire le même travail en 300 heures. Donc un employeur, celui qui utilise les services des 300 ouvriers, a fait une plus-value qui s'estimerait entre la différence du nombre d'heures qu'il aurait fallu à un ouvrier tout seul pour ériger cette obélisque.
Alors là, par contre, je vous dis ça, mais c'est vraiment c'est le passage où il parle de la plus-value, parce que là, il me semble que c'est plutôt la vision de la division du travail. Que la plus-value en tant que telle, au sens que tout le monde marque 100 ans. Là, ce dont vous parlez, c'est de la plus-value par rapport au travail, pas de la plus-value par rapport à l'échange. Ce dont on parlait là, c'est le fait que, quel que soit le nombre d'ouvriers qui produisent quelque chose, donc quelle que soit cette répartition du travail par laquelle on va produire quelque chose, donc quelle que soit la division du travail, au bout du compte, pour que ça fonctionne, il faut que celui qui emploie les employés, lorsqu'il échange les marchandises, qu'au bout du compte, il y ait quelque chose de plus qui apparaisse par rapport à tous les coûts, toutes les charges des employés eux-mêmes qu'il y a eu pour produire ces marchandises. Et que la plus-value va désigner justement, du coup, ça veut dire que celui qui travaille, l'employé, il aura bien produit par son travail quelque chose de supérieur à son travail, mais qui n'est pas récupéré par lui, par contre. Donc c'est ça que désigne ça. Proudhon, je suis un peu étonné parce que, effectivement, vous avez raison, sur Proudhon, il y a bien une analyse, mais là, j'ai l'impression, alors vous allez vérifier, que le passage que vous citez, il est plus lié à la division du travail qu'à la plus-value en tant que tel, le calcul, donc on va voir. Après, le problème, c'est que Proudhon, c'est pas Marx. Proudhon, c'est quand même un courant. Donc après, c'est le mauvais concept, souvent, et c'est comme ce qu'on fait encore aujourd'hui, et déjà à l'époque, Bakounine, Proudhon, Marx et d'autres, c'est déjà la même chose. C'est le courant libertaire, n'est pas le courant marxiste. Et faisait déjà la même chose, c'est que s'il pouvait arriver, il peut arriver que des branches comme ça différentes, qu'on utilise le même terme pour parler d'autre chose. On peut se vérifier un peu, mais c'est intéressant, oui, il faut pas le vérifier, par contre. Mais là, par contre, ce dont vous parlez sous les termes de plus-value, ce n'est pas ce dont parlait Bernard. Ce n'est pas, c'est pas de cela dont il s'agit. Là, c'est vraiment la valeur. Si vous voulez, pour, juste pour finir, il y a un problème. Bernard m'a parlé en aparté. C'est ça de la qualité de l'échange. Lorsqu'il est de la valeur d'échange. La valeur illimitée de la valeur d'échange. Je veux dire, le caractère illimité de la valeur d'échange. En fait, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se situe. C'est-à-dire que. Parce que Bernard disait, on est passé d'un système, certains économistes disent qu'on est passé d'un système de plus-value industrielle à financier. En fait, l'argent, vous savez, c'est quand on dit, et pour lui maintenant, ce qui n'existait pas avant, il ne faut pas laisser dormir l'argent. Quoi. Maintenant, comment on dit, il y a une expression, l'argent produit l'argent. Quoi. Il y a une expression courante comme ça qu'on utilise. L'argent travaille. Vous voyez, l'argent travaille. Ce travail. Alors qu'est-ce qui travaille? Ça veut dire que là, il y a derrière tous ces analyses, en fait, il y a une inversion qui déjà a été décrite par Aristote, ce que j'ai appelé la chrématistique, d'ailleurs, parce que chrémat, en fait, ça veut dire la richesse. Donc, en fait, c'est l'étude de la richesse, chrématistique, et en fait, c'est le moment où on passe d'un système où les marchandises sont échangées avec un moyen d'échange qui s'appelle l'argent, la monnaie. Ça, c'est un système. Donc, ce qui est visé, c'est la valeur d'usage de la marchandise. J'utilise l'argent simplement pour faciliter le troc. Donc, dont le but n'est pas le créma, ce n'est pas la richesse, mais c'est bien l'échange de la marchandise, à un système où la marchandise va être elle-même utilisée comme moyen d'échange entre la monnaie et la monnaie. C'est-à-dire que, la marchandise n'est pas là pour l'usage qu'on en a. Mais elle est là pour, parce qu'elle coûte temps, et qu'en l'échangeant, ça va me rapporter du temps. Autrement dit, on a là le moyen devient la marchandise elle-même. Et c'est cette inversion qu'elle a. C'est cette inversion-là, et qui est cette activité. Parce que le fait d'utiliser des marchandises, d'acheter des marchandises, non pas pour les utiliser, mais pour les revendre, et donc fabriquer de l'argent, quelque part, fabriquer de l'argent, ça n'a pas de limite. Ça ne correspond à aucun autre usage, sinon le fait d'utiliser une marchandise pour avoir de l'argent. Donc ça n'a pas de limite à ça. C'est plutôt ça dont il s'agit.
Ce qui est sous-jacent, si vous voulez, à cette analyse de la plus-value, c'est que dans un rapport d'exploitation, alors on va peut-être un petit peu plus pointu, si vous voulez, mais en restant simple quand même, quand on calcule, la différence ne peut pas venir. Ce qui produit de la plus-value, ce n'est pas la matière première, ce n'est pas les investissements des machines, ce n'est pas non plus la TVA qui, elle, intervient à l'envers, au contraire, elle contribue dans l'autre sens, mais c'est le travail. C'est-à-dire que là où il y a une différence entre le coût de ce qui est nécessaire à la production. Alors, ce qui est nécessaire à la production, il faut des machines. Ok. Les machines, leur coût en amortissement, je le calcule. Il est le même au début qu'à la fin. Pas d'augmentation là-dessus. La matière première, je l'achète. Je la revends. Je n'ai pas non plus d'augmentation là-dessus. La TVA, ça joue en sens inverse. Parce que la TVA, je récupère une TVA d'une matière première que j'achète 10 euros, ça je la récupère, mais l'État me réclame une TVA sur une vente que je ne vais pas faire à 10 euros, mais mettons à 20 euros. Donc le taux de TVA, là je perds avec la TVA. La TVA me grève de la plus-value. C'est l'État qui me pique une partie de la plus-value. Oui, l'État. Peu de choses, parce que c'est la différence au même taux entre la matière première que je vends et le produit, et la matière première que j'achète et le produit que je vends. Donc c'est pas énorme. Par contre, la différence, elle est au niveau du travail. Donc c'est bien le travail qui est source principale de plus-value. Donc, et dans l'analyse que je viens de développer, cette plus-value ne peut venir que du travail. Donc d'où vient-elle dans le travail? C'est que alors que ma force de travail, par mon salaire, correspond à, mettons, tant d'heures de travail, eh bien, au niveau de la vente, ça correspond au double, ou enfin, à quelque chose de supérieur. Et que cette partie-là, eh bien, elle échappe à l'État, actuellement, dans notre système de production, elle est la propriété de l'entreprise. Et donc la propriété de l'entreprise, et c'est elle qui va permettre à l'entreprise de fonctionner. C'est très précisément un rapport, c'est le rapport que Marx analyse comme étant un rapport d'exploitation. Donc il y a là un rapport d'exploitation.
Est-ce que vous ne croyez pas que les 35 heures, à l'issue des prévalus?
Pardon, j'ai pas
compris. Il y a quelqu'un, on va intervenir après.
Je voudrais demander dans quel cas de l'Aristote on parlait de
la politique. Politique de 1 et 2.
Sinon, à Bernard, comment fait-on pour échapper à. Puisque l'immense majorité des travailleurs sont salariés, comment font-ils pour échapper à ce que tu as fait l'exploitation?
Pour la deuxième partie, la question était pour Bernard. L'immense majorité des travailleurs sont salariés, vous êtes bien d'accord? Comment font-ils pour échapper à l'exploitation? Comment peuvent-ils faire?
Il n'y a pas d'autre manière pour échapper à l'exploitation que de changer de système. Maintenant, c'est pour ça, ne dis pas que c'est possible de changer de système. Pas de problème, ni des moyens par lesquels il faut utiliser pour le changer. Mais en le rendant soutenable, ça ne modifie en rien le rapport d'exploitation. La caricature de ces moyens pour le rendre soutenable, je crois que je vous l'avais dit, c'est au Japon, vous avez une salle où on vous recommande d'aller pour aller taper sur le patron en affiché, donc en grande affiché, mais en mannequin. Vous pouvez taper dessus tant que vous voulez, c'est recommandé. Si vous n'y allez pas, c'est dangereux. Allez-y, tapez dessus. Tapez dessus, ça vous soulage. Quand vous prenez, vous êtes plus efficace. Et donc vous travaillez mieux. Vous avez l'impression d'avoir du plaisir, de taper sur votre patron. Lui, ça ne perd pas de temps. Et quant à la structure de fonctionnement de la structure sociale, il n'a strictement rien changé. Mais vous vous sentez bien.
Oui, je vous posais la question sur les 35 heures. Il me semble quand même que les 35 heures, c'est une plus-value sensationnelle pour l'État et pour les entreprises. Parce que les gens ne travaillent pas 35 heures. On sait bien qu'en France, on travaille beaucoup plus. Et on est un pays qui produit beaucoup plus de richesses que les Allemands. Alors, la façon dont vous décriviez la plus-value, il me semblait que les 35 heures étaient une façon détournée de plus-value.
Écoutez, là par contre, je me sens tout à fait incompétent pour vous répondre sur le fait que les 35 heures.
Si dans la mesure où, on sait bien que sur le public, le compte épargne temps, souvent, il n'est pas actualisé. C'est-à-dire que les gens font beaucoup plus d'heures que ceux qui vont récupérer après.
Dit comme ça, oui. Dit comme ça, oui. Mais à la base, les 35 heures n'ont pas été créées pour ça.
Oui,
mais on est d'accord. Non, mais c'est pour ça. Pour clarifier comment ils communiquent, mais vous avez raison. C'est-à-dire que les 35 heures, la mise en place des 35 heures, qui n'était pas du tout fait pour ça. Au contraire, c'était pour amortir et pour donner plus de travail à d'autres. Mais la mise en place était d'une façon où le problème, c'est que les gens font 35 heures en continuant à faire le travail qu'ils faisaient en 40 heures. Et même, du coup, bah, comme ils acceptent encore plus avec Internet, les mails, etc. Donc oui, il y a raison, ça se traduit comme ça. C'est pour ça que ça tient les 35 heures. Sinon, ils auraient disparu.
Bon, je prends la parole, encore une fois. C'est pour rendre hommage à Didier et à Bernard. Et c'est pour dire combien ils nous amènent dans des réflexions intéressantes sur le travail et qui sont les préoccupations d'aujourd'hui. Et en effet, aujourd'hui, il y avait une conférence à Lyon, à l'université Jean Moulin. Je vous en donne le condensé. Que le travail soit un problème et que celui-ci soit aujourd'hui préoccupant, c'est vrai en particulier pour les étudiants qui vont avoir ou qui ont déjà l'obligation de trouver un emploi. mais aussi pour tous ceux ici et ailleurs qui subissent des conditions de travail pénibles, qui voient leurs compétences méconnues, qui cherchent douloureusement à donner du sens à leur activité quotidienne. Ce problème ne sera convenablement posé qu'à la condition qu'une réflexion plurielle prenant vue le travail comme tel le définisse rigoureusement et en décrive les modalités fondamentales. Cette journée cherchera à déterminer les conditions d'un travail non servi.
Disons juste un mot par rapport à tout ce que j'ai entendu, surtout la façon dont c'est parlé, je ne parlerai pas de la conférence de Lyon, mais par rapport à ce qu'on disait sur la valeur morale et la valeur économique. À un autre niveau, et on l'a bien vu dans les interventions qu'on a faites sur la compagnie ou sur les 35 heures, à un autre niveau, parfois on peut parler, la conclusion est telle qu'on peut même finir par parler de problèmes économiques masqués par le moral. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la question politique, on peut être amené à poser le problème, ce qu'on appelle la politique, au fond, pas le politique, mais la politique, peut-être qu'on le trouve dans les médias, où du coup on va se mettre à parler des problèmes économiques, vous voyez, où l'exploitation, ce qu'on va retenir, c'est le côté, c'est pas bien d'être exploité. Le côté moral, du coup on va en parler à partir de cette idée-là. Alors que le terme exploitation tel que j'emploie Bernard dans le contexte de la théorie de Marx, il n'a rien de moral, c'est un phénomène, c'est une mécanique. C'est au sens propre du terme une exploitation qui ne veut pas dire que c'est mal ou bien, c'est pas ce qui est dit. Et que, donc, si vous voulez, il y a cette confusion entre le moral et l'économie va se retrouver, c'est-à-dire qu'on peut parler de l'économie d'une manière, ce qu'on appelle le politique, d'une manière qui elle-même est masquée parce qu'elle est morale et qui du coup fait qu'on a l'impression que, ben, vous voyez bien, on en parle. Donc, continuer à la Carrefour, etc. Voilà, c'est vraiment ça, parce que juste un mot, je n'avais pas répondu, mais j'avais envie, ce que vous avez dit sur le ressenti. J'ai compris, hein, le ressenti. Vous voyez, pourquoi, c'est pas un peu caricatural, vous voyez. Je me mets à la place, mais j'y dis aussi, c'est pas évident de lire ces choses-là et de travailler sur ces choses-là. Parce que quelque part, on est en train de me dire que Bernard disait, oui, la meilleure façon de ne pas pouvoir traiter la question, c'est d'envisager que l'autre ne pense pas. Et moi, c'est vrai qu'en vous écoutant, j'étais en train de me dire, mais est-ce que c'est pas ce que l'impression qu'on peut donner, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer que les gens, dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils parlent de leur ressenti, ils ne voient pas vraiment les choses. Donc on est en train de dire, ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas vraiment, vous voyez. Et donc on peut le ressentir comme ça. Mais alors, oui, mais je fais comment, moi, pour penser à cet impensable? Alors qu'en fait, non, c'est que c'est peut-être, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre au sens de caricature, justement. C'est-à-dire que quand on parle de ça, je pense à une phrase de Bourdieu, qui est un sociologue marxiste contemporain, qui termine une de ses œuvres, bon, je ne suis pas sûr que ce soit les œuvres qui sont les autres, mais une de ses œuvres en disant, mais au fond, c'est quoi la sociologie? En tant que science, hein, c'est quoi la sociologie? C'est libérer l'individu de la liberté, c'est libérer l'individu du sentiment de liberté au sens du libre arbitre. C'est-à-dire que, ici, ça ne veut pas dire que, simplement, nous, on a l'impression d'être libre, c'est justement d'avoir un boulot, un bon emploi, de pouvoir aller à Carrefour, de pouvoir s'épanouir. On a l'impression que c'est ça, être libre. Et ce que peut montrer l'économiste au sens de Marx, ou le sociologue au sens contemporain, c'est que, justement, c'est que, derrière ce sentiment qu'on a de liberté, de toute puissance, on peut être encore plus puissant. Il suffirait d'aller voir ce qu'il y a derrière, au bout. C'est tout. Maintenant, évidemment, changer les choses, ça, c'est plutôt du mouvement politique. Là, on n'est pas. Le fait qu'un individu ne puisse pas changer tout le système, mais ça, personne n'a rien à dire là-dessus.
Si Bernard
m'a dit
qu'il faut changer.
Je vous ai pas dit qu'il faut changer, je vous ai dit que de toute manière vous allez être obligé de changer. Que vous le vouliez ou pas. C'est pas une nécessité morale, c'est une nécessité physique, quasi biologique. Vous allez changer. Vous ne pouvez pas ne pas changer. Et quand je parle d'exploitation, effectivement, c'est une nécessité du système d'exploiter. Quand je disais moi à mes employés que je vous exploite, si je ne vous exploite pas, je ne peux pas fonctionner comme un restaurant normal. Donc c'est une nécessité interne au système. Il repose sur un rapport d'exploitation qui est lié à un rapport avant d'aliénation, parce que c'est moi qui déterminais, alors là, on peut jouer encore le menu, le ceci, le cela, bon. Et que tout cela donne un rapport de pouvoir, un rapport de domination. Donc ce n'est que cela, c'est les trois éléments qui sont internes au système. Ça n'a rien à voir avec la valeur morale du chef d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec cette préoccupation. Alors après, à un autre niveau, il peut lui aussi avoir des préoccupations politiques et vouloir ceci ou cela. Mais c'est autre chose. Alors, on peut ne pas vouloir rentrer là-dedans. On peut aussi choisir de rentrer là-dedans. Moi, je connais des tas d'amis à moi. On militait ensemble dans les années FAST 68 et autres, donc ils sont allés élever leurs chèvres en Ardèche pour ne pas avoir précisément à se compromettre avec le système. Je prétends qu'ils se compromettaient plus avec le système que moi en ouvrant un restaurant en plein cœur d'une ville. Mais ça, c'est une autre affaire, c'est une appréciation personnelle. Ça n'est pas une analyse du système. Mais faisant le choix que je faisais, il m'était indispensable d'exploiter les gens avec lesquels je travaillais. Parce qu'autrement, il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je fasse autre chose, mais employant des employés, il m'était, je ne pouvais que les exploiter. Tout en étant, je l'estime, et il le pensait, un très bon patron.